perkeleen tontot!
Oh yeah, salut à tous, bienvenue sur Bac FM 106.1 dans l'émission Check Me Load. C'est votre émission métal qui commence tout de suite avec encore aujourd'hui pour cette deuxième de la saison un programme bien chargé avec des nouveautés qui arrivent aujourd'hui, qui sont arrivées les semaines précédentes, et puis aussi une interview avec un groupe de death metal marseillais qui a sorti fin août son nouvel album, un album absolument énorme. Ce groupe, c'est Acode. L'album s'appelle The Divine Triumph et on aura un des membres pour en parler d'ici une demi-heure. Et on va en écouter un extrait d'ici quelques instants, mais vous allez voir, c'est absolument gigantesque. Les sorties du jour, eh bien, je vous en proposerai trois. Si on a le temps, on reviendra sur une sortie du mois d'août. Et puis pour terminer l'émission, une toute nouvelle rubrique, la rubrique 20 ans dans tes dents. Pourquoi cette rubrique ? Eh bien parce que cette année, Check Me Load a 20 ans et j'avais envie pour fêter ça qu'on revienne une fois tous les 15 jours sur un groupe, sur une chanson qu'aura été diffusée il y a 20 ans dans ces mêmes studios, dans cette même émission. Alors ce sera pas des trucs super connus, on va plutôt s'intéresser à chaque fois à des artistes qu'on a un petit peu oubliés, et voilà, ça va être une façon soit de les redécouvrir, soit pour les plus jeunes, et bien tout simplement de les découvrir. Tout ça, ce sera en fin d'émission. Pour commencer, eh bien, je vous propose qu'on se donne un avant-goût de l'interview de tout à l'heure, de l'interview d'Acode. Je vais donc vous faire une petite présentation du combo. On va écouter un extrait de l'album. Voilà, comme ça, vous serez dans l'ambiance pour l'interview de tout à l'heure. Alors, le nouvel album, je l'ai dit, hein, il s'appelle The Divine Triumph. Il est sorti le 24 août. Il est sorti sur une major, sur Jive Epic Sony Music. Et c'est un gros et ambitieux concept album. Donc Acode, c'est un groupe de Marseille qui s'est formé en 2006, qui a longtemps évolué sous forme de quintette et qui est depuis peu devenu un trio. Un trio formé de Fred au chant, qui est d'ailleurs un des membres fondateurs, de Jérôme à la guitare et à la basse, et de Raph à la batterie. Pour ce qui est du style, on est dans du death metal depuis toujours. Alors au fil des périodes, ça a été du death mélangé avec pas mal d'influences, il y a pu y avoir des influences qui viennent du trash, du heavy et plein d'autres choses, mais désormais Acode, c'est du death metal mélodique qui est teinté quand même d'une bonne dose de black metal symphonique. Alors moi, c'est précisément le style que j'adore, donc voilà, j'ai particulièrement aimé ce nouvel album qui est pas le premier, hein, puisque le premier c'était Point Zero en 2009, il y a eu ensuite First Earth Poison en 2011, suivi d'un EP qui s'appelait Another Pass en 2013, encore un album, un troisième album, To The Maelstrom, en 2015, et puis encore un EP, Inner Light, en 2016, donc pour arriver à The Divine Triumph, un album concept dans lequel le groupe nous propose une sorte de réinterprétation de l'enfer de Dante à travers la descente aux enfers et la rédemption d'un homme qui a tout perdu. Quelle a été la volonté du groupe avec cet album ? Eh bien, ça a été de faire un album plus imposant, plus orchestral qu'auparavant. Et ils se sont donc associés pour se faire un guitariste, puisqu'ils étaient plus que trois, donc il a fallu un petit coup de main. Pour ça, ils ont fait appel à Matthew Hasselbergs, qu'on connaît notamment pour être le guitariste de Nightmare. Ils ont aussi fait appel à Richard Fixed, qui lui est un ex-membre du groupe d'Indus Tantrum. Et donc lui, il s'est occupé de tout ce qui est partie orchestration, qui s'inspire d'ailleurs là pas mal du travail symphonique réalisé par le groupe grec Septic Flesh sur leurs derniers albums. Voilà, de tout ça, de toute façon, on va en reparler tout à l'heure avec le groupe, mais pour l'heure, il est temps qu'on se fasse une idée de tout ça avec un titre qui s'appelle Road to Nowhere. C'est un morceau qui mélange mid-tempo ravageur, déflagration aussi soudaine qu'écrasante et envolée symphonique de toute beauté. Tout ça réuni pour vous dépeindre eh bien, cette route vers nulle part qu'emprunte le héros de l'histoire. Voici Acode sur Bike FM.
Save!
C'était Akkod à l'instant sur Back FM dans l'émission Check Me Load. Le titre c'était Road to Nowhere, un extrait de The Divine Triumph, nouvel album paru le 24 août. Et donc d'ici une vingtaine de minutes, on aura un des membres d'Akkod qui sera en direct avec nous sur Back FM, donc pour en parler de ce concept album qui est absolument magistral, qui est absolument énorme. C'est un album qui a été enregistré à Marseille par Shotor de Dagobah, qui ensuite était mixé, masterisé en Suède, ça s'entend. Et on en reparle tout à l'heure, mais il est temps maintenant de passer à la sortie du jour. Et on va changer radicalement de style, puisqu'on n'est plus du tout dans le death metal là. On va dans du hard rock avec le groupe Monster Truck qui sort aujourd'hui l'album True Rockers. Alors Monster Truck, c'est un groupe canadien, ils viennent de l'Ontario, d'une ville qui s'appelle Hamilton. Le groupe a été créé en 2009 autour d'un chanteur-bassiste qui s'appelle John Harvey, d'un guitariste qui s'appelle Jeremy Wiederman, d'un clavier qui s'appelle Brandon Bliss et d'un batteur qui lui s'appelle Steve Kielly. Alors, je vous l'ai dit, hein, là on est sur un mélange de hard rock, de stoner, avec quelques fois quand même quelques éléments punk, blues rock, southern, voilà, c'est un petit peu leur recette au Monster Truck. Ils ont commencé leur discographie en 2013 avec un premier album qui s'appelait Furiosity, qui va connaître un succès immédiat au Canada. Alors chez nous, on va découvrir le combo un an plus tard quand ils vont se produire en première partie de Slash à Paris. Ça va être un véritable coup de foudre entre Monster Truck et le public français, qui va accueillir ensuite avec enthousiasme Sitting Heavy, leur deuxième opus qui paraît en 2016. D'ailleurs, Monster Truck, si vous vous souvenez, il s'était arrêté à Nevers en mars 2017 pour un concert mémorable au Café Charbon. Une tournée qui a d'ailleurs emmené Monster Truck aux quatre coins de la planète et durant laquelle eh bien, nos Canadiens ont profité du moindre instant de libre pour composer ce troisième album, True Rockers, qui paraît aujourd'hui. Un album qui démarre fort avec le morceau titre, donc True Rockers, sur lequel on retrouve en featuring Monsieur Dee Snider. Dee Snider, c'est bien évidemment Twisted Sister. Et là, dans ce morceau-là, il nous la joue façon prédicateur du rock, qui délivre son sermon telle la bonne parole et qui surtout donne la couleur de ce disque, hein, tout simplement. Donc, que dire d'autre sur ce troisième Monster Truck? C'est bien que c'est un concentré d'énergie, de sueur, de puissance, notamment en ce qui concerne sa production qui est absolument monstrueuse, et cette fois elle est signée Dan Wheeler. On a des morceaux qui sont encore plus variés que sur les deux premiers disques. C'est vraiment un album qui est taillé pour soulever les foules, donc je pense qu'avec ce disque-là, dont certains lui reprocheront quand même peut-être des fois d'être un petit peu trop mainstream, mais ça c'est une autre affaire, mais je pense quand même qu'avec True Rockers, Monster Truck va voir son nombre de fans augmenter, et peut-être même que les Canadiens vont enfin séduire les États-Unis, où pour l'heure, eh bien, ils sont encore beaucoup moins populaires qu'en Europe. Voici donc un extrait de True Rockers avec un morceau qui s'appelle True Rocker, en featuring avec Dee Snider, c'est Monster Truck sur Back FM. Hey mom, let's go!
right to rock and roll, to testify that we are true rockers. They say rock and roll is not dead, cause it lives in our hearts. Stand up, Bibby County. Stand up and show your true colors. Show everybody you know that rock lives in your soul, and that we ain't never gonna let it die. I wanna see your heads banging, all fists to the sky. Scream at the top of your lungs, I know who I am. I know what I stand for. I am a true rocker. Let me hear you sing. Raise your voices and praise. And as long as we still breathe rock and roll, it will live forever. And if you believe it will never die, we will never die. Now scream!
C'était Monster Truck à l'instant sur Bike FM dans l'émission Check Me Load. Et oui, chaque vendredi sur Bike FM, c'est le jour du métal. Vous avez du métal à 14h, à 22h, jusqu'à minuit. Donc profitez-en. Et à l'instant, donc, on a écouté True Rocker, un extrait de l'album True Rockers, un morceau interprété en compagnie de Dee Snider, ex-chanteur de Twisted Sister, qui d'ailleurs, j'en profite pour signaler, continue lui sa carrière en solo et a sorti un album plutôt sympathique. Là, il y a quelques semaines, on en avait écouté un extrait au mois de juin-juillet dans cette même émission. On reste dans les sorties du jour, on quitte le Canada pour l'Allemagne. Voilà, c'est pas tout à fait le même paysage, on va dire. Et c'est avec le groupe Grave Digger qu'on va continuer, qui sort également aujourd'hui un nouvel album intitulé The Living Dead. Donc Gravedigger, groupe né en 1980 à Gladbeck, c'est un groupe qui est né sous l'impulsion du chanteur Chris Bottendahl, qui en est le seul membre permanent depuis le début. Alors bien qu'il ait jamais connu le succès commercial d'un Halloween ou d'un Gamma Ray, Gravedigger figure quand même parmi les formations les plus importantes de la scène heavy metal allemande, il faut le savoir. Pour ce qui est de sa discographie, c'est en 84 que le combo va lancer les hostilités avec Heavy Metal Breakdown. Depuis, en dehors d'une période d'activité qui a duré à peu près de 86 à 93, Gravedigger sort très régulièrement de nouveaux albums à la fréquence d'environ un tous les deux ans. Et pour preuve, leur dernier opus en date, qui s'intitulait Healed by Metal, était paru en janvier 2017. Et c'était d'ailleurs un très bon cru, je me souviens. Alors aujourd'hui, le groupe sort son 19e album, qui s'inscrit alors certes dans la droite lignée de ses prédécesseurs. Comprenez par là qu'on reste dans la Deutsche Qualität de ce que nos amis teutons savent faire en matière de heavy metal, mais avec tout de même quelques curiosités qui ne manqueront pas de provoquer l'étonnement et la surprise parmi les fans du combo, comme par exemple le titre qu'on va écouter dans quelques instants, pour lequel Gravedigger s'est associé à Ruskaya, une formation russe qui associe metal, punk et polka. Alors attention, si vous êtes fan du Fossoyeur allemand, le morceau risque fort d'avoir un effet what the fuck sur vous, mais rassurez-vous, hein, le reste de l'album est dans sa majorité fidèle au son habituel du groupe. Voici donc Gravedigger en featuring avec Ruskaya, avec le morceau Zombie Dance, une chanson qui fait danser les zombies sur un air de polka. Et après l'émission, je vous conseille d'aller voir l'excellent clip qui accompagne le titre. On est à la croisée entre la série The Walking Dead et le film Zombie de Romero, je ne vous dis que ça, on écoute Gravedigger tout de suite. Step to the left and don't cross the line, or your flesh will be mine. Zombie Dance, vous l'aurez compris, hein, c'était Grave Digger à l'instant. Dans l'émission Check Me Load, c'est un extrait de l'album The Living Dead qui paraît aujourd'hui pour notre combo de heavy metal allemand qu'on retrouve là donc en featuring avec les Russes de Ruskaya pour cette espèce de morceau entre heavy metal et polka, en tout cas qui donne envie de danser. D'ailleurs, tiens, si vous aimez danser, ne vous rasseyez pas tout de suite puisqu'on va rester un peu dans la même lignée, alors dans un style un peu différent avec du pagan metal, mais quand même, puisqu'on va s'intéresser à un album paru il y a une semaine, un album de Korpiklaani qui s'appelle, alors je pense que je vais écorcher le nom, qui s'appelle Kuljika, je sais pas trop, je parle pas très bien le finlandais pour tout vous avouer, puisque c'est de là que nous vient le groupe, qui a été fondé en 2003, sur les cendres d'une formation folk hein, d'ailleurs. Et donc depuis, alors même à l'époque de la formation folk, Korpiklaani est mené par le chanteur-guitariste Jon Järvelä, qui est désormais accompagné par un guitariste, un bassiste, un batteur, un accordéoniste et un violoniste. Jon Järvelä, je me souviens l'avoir eu en interview il y a très longtemps pour la sortie du premier album et j'en garde un souvenir assez traumatisant. Voilà. Alors, comme vous l'avez donc deviné, Korpiklaani, c'est du folk pagan metal. Le nom du groupe en finnois, ça signifie le clan de la forêt. Alors, pour être plus précis en ce qui concerne le style musical du groupe, c'est un mélange de métal et d'instruments folk traditionnels qui sont issus du humpa. Et le humpa, eh bien, c'est la musique traditionnelle finlandaise. Pour ce qui est des textes, alors, ils parlent essentiellement, on en revient même de la forêt finlandaise, de ses légendes et puis aussi de ses fêtes bien arrosées. Vous trouverez à peu près que ça dans les paroles de Korpiklaani. Leur premier album, c'était Spirit of the Forest, donc en 2003. Il y a eu ensuite un enchaînement assez rapide de plein d'albums, parfois un par an, si bien qu'en seulement 15 ans de carrière, le groupe a déjà 10 albums dans sa discographie, donc c'est assez énorme. Et justement, le 10e album, il est tout frais, puisqu'il est paru il y a une semaine, hein, c'est Kuljika, que j'ai encore écorché, et c'est en fait l'album le plus long de la carrière des Finlandais, puisqu'il fait une durée de 71 minutes, ce qui est beaucoup hein, pour Korpiklaani. C'est aussi son œuvre la plus organique, avec un son plus naturel et authentique que jamais, qui fait quand même assez bien ressortir chaque instrument, mais qui fait aussi bien ressortir l'atmosphère créée par le groupe. L'autre point fort de Kuljika, c'est sans conteste la variété des 14 compos qu'il contient, alors avec par-ci par-là quelques touches de heavy, prog, même groovy, et ça apporte une belle dose de fraîcheur à la musique du groupe, qui, bien loin de s'endormir sur ses lauriers, se réinvente et avance tout en conservant ce côté festif et un petit peu épique qui a fait sa renommée. Donc, ben voilà, hein, vous savez maintenant qu'avec Korpiklaani, ça va danser dans les fosses des salles de concert. On écoute un extrait de l'album Kuljika. Alors, le titre, il est imprononçable, donc je le tente quand même. Hein. Ça s'appelle Enkselipoika et c'est tout de suite, c'est sur Bike FM.
Sen huulille asetan, sinä katselen piikojen työtä.
venez de danser au son de Korpi Klani sur Bike FM dans l'émission Check Me Load, votre émission métal. C'était un extrait de Kool G Ka, nouvel album paru la semaine dernière, et le titre qu'on vient d'écouter c'est Enxelipoika. Alors je dois le dire à peu près comme il faut, parce que d'après ce que j'ai entendu dans les paroles de la chanson, ça a l'air à peu près de correspondre. Voilà pour nos amis finlandais. On va revenir à du hard rock maintenant, hein. On va laisser tomber ce côté un petit peu festif. Enfin, le hard rock c'est festif aussi, mais voilà, on laisse tomber les accordéons, les violons. Quoique je sais pas, on va peut-être plutôt passer à l'interview, puisque je me demande si on va pas avoir le groupe à code d'ici quelques secondes. Alors là, pour vous dire la vérité, je suis en train de meubler parce que du coup, ah si, apparemment, interview. Bonjour.
Bonjour. Donc voilà, Jérôme, groupe à code.
Eh ben, enchanté, Jérôme, bienvenue sur Bike FM, donc en direct, hein, dans l'émission Check Me Load.
D'accord.
Alors, comment ça se passe cette journée de promo?
Ah, impeccable, on est au Hard Rock Café Paris, donc on est accueillis aux petits oignons, donc c'est super.
Ça va pas trop intense?
Non, ça va. Là, on a commencé tranquille ce matin avec quelques interviews, tout ça. Donc ça va. C'est pas non plus la mer à boire.
Alors, si tu es avec nous aujourd'hui, c'est pour nous présenter votre nouvel album, hein, donc The Divine Triumph, qui est paru le 24 août. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je te propose, c'est quand même qu'on fasse un petit peu plus ample connaissance avec A-Code. Donc, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation du groupe et puis nous dire, dans les grandes lignes, hein, quel a été votre parcours jusqu'à aujourd'hui?
Alors, A-Code, on est un groupe qui a été formé donc dans le sud de la France, Marseille, en 2006. Voilà, on a sorti 3 albums jusqu'à celui-là,
ouais.
Et 2 EP. Donc, on a commencé à travailler depuis le premier EP qui est sorti il y a 5 ans de ça. On a commencé à travailler avec Shooter, le chanteur de Zagoba, pour la production et les enregistrements. Ça nous a mis après un petit pied à l'étrier. Et depuis, on a foulé plusieurs fois plusieurs scènes, gagné des concours comme le Motocultor ou le Hellfest. Donc voilà, on a pu faire mettre aussi un petit pied dans tout ce qui est festival. Donc voilà, on est là en ce moment, le groupe est un power trio.
Ouais.
Voilà, donc au début on était 5. Bon, après finalement on se retrouve à 3 parce que c'est mieux ainsi. Et là on est vraiment en osmose, on a pu travailler beaucoup plus efficacement et plus ensemble dans une même ligne de mire.
Et justement, le fait d'être passé de 5 membres à 3, est-ce que ça a changé quelque chose dans la conception du nouvel album? Est-ce que ça a changé un petit peu la donne?
Alors non, parce qu'en fait, les problèmes en fait de line-up ont commencé après l'enregistrement du dernier EP.
D'accord.
Qui a débouché donc sur une signature donc avec Dave Epic. Et en fait, on a eu un petit désagrément. On n'était plus dans la même longueur d'onde, voilà.
Ouais.
Nous, fallait qu'on fasse. On est dans du métal extrême, dans du death metal assez sombre, tout ça, et eux voulaient faire du trivium, quoi, qui est complètement opposé du style.
Ah, oh, mais ça n'a rien à voir.
Voilà, donc du coup, il y a un moment donné où ça clash, ça mettait des freins, et puis à un moment on a beaucoup composé à 3, et en fait, quand ils sont partis, en fait, ça nous a libérés, en fait, on a compris, ça a été un mal pour un bien, parce qu'on a compris en fait qu'on est à 3, on allait beaucoup plus loin dans ce qu'on voulait, parce qu'on n'avait plus de freins, quoi. Et c'est beaucoup, et c'est mieux des fois de rester moins nombreux et tous ensemble, quoi.
Alors tu nous l'as dit, hein, depuis vos débuts, le style musical de A-Code, c'est quand même dans l'esthétique death, même si ça a énormément évolué au fil de vos productions. Là, avec The Divine Triumph, vous prenez un tournant death mélodique avec quelques teintes black. Et alors franchement, quelle claque et quel chemin parcouru. Est-ce que tu penses qu'avec ce nouvel album, vous avez trouvé véritablement votre identité, votre univers?
Ah oui, complètement. Cet album-là, c'est pour nous le. Alors bizarrement, c'est un début en fait, un début de ça a été toutes ces productions d'avant, ça a toujours été un peu une mise en place plutôt bancale en fait, parce qu'il y avait toujours un souci, quelque chose qui allait pas, parce que ça manquait de recul, c'était fait plutôt à la va-vite.
Ouais.
Il y avait une partie du line-up qui voulait pas non plus se s'investir réellement dans qui voulait plus faire du rock and roll, on va dire, hein. On a vraiment trouvé ce qu'il fallait, en fait. On a trouvé tout ce qu'il fallait. On est seul maître du style maintenant. Je veux dire, on n'a plus du tout de personnes, de contraintes, on va dire, de line-up. Pour le coup, on est vraiment épanoui, quoi. Je veux dire, on a vraiment trouvé notre, c'est le début, en fait. Parce qu'en fait, c'est le moment sur une trilogie.
D'accord.
Donc, voilà, on est là, on est sur le début d'une histoire. Bon, qui est relatif un peu avec une mort cérébrale, donc tout ça, c'est tout un concept, en fait, où tous les titres s'enchaînent, tout est en relation avec la cover, avec le titre, et tout est symbolique qu'il y a dans l'album, donc c'est un début, en fait, c'est le Sud Dakota, on va dire que c'est définitivement celui-là, et donc voilà quoi, c'est bien le début de quelque chose.
Et ben justement, est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur l'histoire que raconte l'album, donc un vrai concept album, hein, comme tu nous l'as dit, qui est bien sombre, qui nous entraîne un petit peu dans une descente aux enfers. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur le pitch de l'histoire?
Oui, alors en fait l'histoire c'est l'histoire de quelqu'un, en fait, qui fait une on va dire une mort clinique, on va dire, hein, et donc c'est le voyage spirituel de cette âme, en fait, qui,
ouais,
sombre dans des abîmes. C'est une connotation métaphorique parce que c'est une descente des enfers qui peut toucher tout le monde, en fait, autour de nous. Hein, c'est-à-dire, en fait, on voit la personne, si on prend la cover, on voit ce trou noir, en fait, où la personne est aspirée, en fait, dedans, elle plonge dans ces abysses. Le dragon qui est sur la droite, ça représente, en fait, les chimères, il va croiser toutes les chimères qui vont le faire encore sombrer davantage tout le long de cet album. Et en fait, quand je dis que c'est métaphorique, c'est que c'est dans le sens que tout le monde a des chimères autour de soi qui nous font encore descendre et descendre, en fait, dans les abysses. Ces chimères, ça peut être des chimères matérielles, peut-être l'argent, la drogue, voilà, fait plein de problèmes. Tout le monde peut se reconnaître dedans. C'est tout aussi fantastique que quelque chose de réel, quoi.
Alors les orchestrations, elles sont très très présentes tout au long de l'album, ce qui donne d'ailleurs un côté presque cinématique. Et d'ailleurs, vous avez collaboré avec Richard Fixed, qui s'est illustré au sein de Tantrum pour cette partie orchestration, hein, c'est ça?
Oui. Alors Richard, en fait, c'était Raphaël qui le connaissait. Il nous a été conseillé en disant que c'était un très bon musicien. Donc du coup, nous on a fait un morceau test. On a pris un titre, on l'a envoyé. Je crois que c'était Omnes Tenebrae.
D'accord.
Qu'on a fait un test. Quand on a écouté la fin de Omnes Tenebrae, on a tout à fait de suite compris que c'était la personne qu'il nous fallait. C'était un très très bon musicien. Il a réussi à teinter tout l'album. Vraiment, il a coloré cet album. En donnant vraiment tout ce côté, en fait, on lui avait dit un peu ce qu'on voulait, mais c'est vrai que entre les mots et la musique, c'est quand même compliqué, mais lui,
ouais,
a tout à fait compris ce côté un peu grandiloquesque, un peu ce côté, ouais, il fallait être triomphal, en fait, ce côté un peu épique, mais tout en étant sombre. Et en fait, ce qui nous a beaucoup séduit, c'est qu'on lui a dit, bon, ben, qu'il y a feu vert. Nous on veut de l'ambiance, après tu as feu vert, tu fais ce que tu veux, et du coup il y a par moments tout c'est simple là, ces orchestrations elles passent en mode lead, elles lead carrément le morceau, et c'est super, quoi. C'est pas que des ambiances, une nappe de synthé derrière en fond, voilà, là, ça passe vraiment un instrument, vraiment ça remplace la voix sur certains passages et tout, on est super contents, quoi.
Ouais, c'est énorme. Vraiment, c'est vraiment énorme. Et je crois que Septic Flesh, hein, vous a pas mal inspiré pour cette partie-là.
Oui, alors c'est vrai que nous, on parle beaucoup de Septic Flesh quand on nous demande, parce que c'est vrai que c'est compliqué des fois de décrire sa propre musique.
Ouais.
Bon, après Septic Flesh, c'est un groupe qu'on respecte, mais c'est vrai que dans le groupe, on a plus des références plus anciennes que Septic Flesh, en fait. Nous, c'est vrai que nous, dans nos têtes, on a plus des vieux Cradle of Filth,
ouais,
Dissection, Emperor.
Alors, j'y ai pensé aussi à tous ces groupes-là en écoutant l'album.
Voilà, mais sans ce côté, sans le côté black, parce que c'est vrai que tous ces groupes-là, en fait, qui nous ont inspiré, l'ambiance, les synthés, tout ça, c'est vrai que c'est beaucoup tout ce qui est black metal.
Ouais.
Nous, on n'a aucune prétention de faire du black metal. Donc nous, c'est quand même un côté un peu plus lourd. Il y a des gens qui nous citent Amon Amarth, enfin, voilà, du death metal. Bon, c'est un peu un mix un peu de tout ça. Cette petite flèche, c'est vrai qu'en ce moment, bon, c'est un peu le groupe rapprochant, mais ça veut dire qu'on est rapprochant de ceci, mais on s'en est pas inspiré non plus comme des fous, quoi.
Ouais. Alors le disque, donc vous l'avez enregistré. Alors vous étiez trois, mais vous avez quand même reçu un peu d'aide, hein, puisque oui. Il y a un guitariste qui est venu vous prêter main forte.
Vous en parlez de Matt Hasselberg.
Oui, voilà, on en était là, donc de Matt Hasselberg, du groupe Nightmare notamment, qui est venu vous donner un petit coup de main à la guitare.
Oui.
Alors comment ça s'est fait cette collaboration avec lui?
Alors Matt, en fait, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis plus d'une dizaine d'années. En fait, il a connu vraiment lui à Code à ses débuts. Lui, d'ailleurs, ne jouait pas encore dans Nightmare. Il avait sa formation précédente. C'était un ami. On a partagé plusieurs concerts ensemble. Donc, c'est un ami de longue date. On l'a croisé au Motocultor. On avait eu besoin d'un guitariste de session à l'époque pour les lives parce qu'on avait déjà commencé à avoir des gros problèmes avec le line-up. Et quand il a su ça, il nous a dit simplement, ben, les gars, si vous avez besoin de moi, on se connaît depuis trop longtemps, si vous avez besoin de moi, appelez-moi, je viendrai sans problème et tout. Donc ça c'est décidé de suite comme ça. Dès qu'on a eu besoin de lui, on l'a appelé, il était honoré de venir, il a exécuté toutes les guitares. C'était super, il est super pro, il est super pro en fait. Et en fait, c'est un mec avec qui on s'entend bien, donc c'est pas non plus une relation très compliquée, quoi.
D'accord.
Voilà. C'était comme évident, quoi.
Alors, l'album, il a été enregistré à Marseille avec Shooter, c'est
ouais.
Ça. Par contre, ensuite, pour tout ce qui est mixage, mastering, c'est parti du côté de la Suède.
Oui, au Fascination Street Studio.
Alors, notamment, c'est passé dans les mains de Jens Bogren, qui est très très en vue actuellement. C'était important pour vous que le mastering soit fait, finalement, là où est le berceau du death.
Ah oui, oui, complètement. C'est une référence. C'est une référence dans tout ce qui est ingé son. Nous, quand on a envoyé, on a eu l'occasion de bosser avec lui. On a bossé. En fait, le mix, il a été fait par Linus Corneliusson. C'est un des gars qui travaillait pour lui.
Ouais.
Donc avec lui, on a façonné tout ce qui est le mix. Donc c'est avec lui qu'on a beaucoup bossé en fait. On a fait une sorte de cahier de charge pour le mixage. C'est-à-dire que c'est lui qui a dosé en fait comme on voulait, qui fasse ressortir les guitares, les batteries, les orchestrations. Donc on est allé à l'encontre de ce qui se faisait actuellement, c'est-à-dire que actuellement, c'était des mix. En fait, ils avaient des presets avec des guitares à fond les ballons et la batterie à fond et tout le reste derrière. Et nous, on a plutôt fait l'inverse. On a épuré les guitares un maximum. On les a presque écrasées. On a mis beaucoup de basses.
Ouais.
Voilà, pour laisser plus, du coup, ça donnait plus de place pour les orchestrations. Et bizarrement, en écrasant un peu tout ça et sans mettre la batterie à 2000, ça a rendu le côté encore plus agressif. Et plus traditionnel, quoi, plus une approche des albums qu'on écoutait dans les années 90.
90, début 2000,
voilà.
Quoi.
Voilà, c'est ça. Plutôt que de ce qui se passe maintenant, où c'est surproduit avec des subs à fond, tout ça.
C'est ça. Alors, j'aimerais qu'on parle aussi un petit peu du côté visuel, hein, puisque tout est lié, tu nous l'as dit, la musique, mais aussi l'image. On a évoqué tout à l'heure le très bel artwork, tu l'as un peu expliqué. Il y a eu aussi deux clips qui sont sortis pour nous tenir un petit peu en haleine avant la sortie du disque. Il y avait eu d'abord Road to Nowhere, qu'on a écouté tout à l'heure en début d'émission, ça c'était en mai. Il y a eu ensuite Broken Ice, mi-août. Et je tiens d'ailleurs à préciser à ce sujet que ce sont de vrais clips, hein, c'est pas des lyrics vidéo comme on voit beaucoup en ce moment. Ça aussi, c'est quelque chose d'important pour Akot de réaliser des vrais beaux clips avec une vraie histoire, comme le fait d'ailleurs aussi très bien Dagoba.
Alors nous les clips, ouais, on a eu l'occasion de la chance de faire des clips. Et surtout c'est de tomber sur les bonnes personnes.
Ouais.
Nous on a bossé les clips avec Igor Omodei qui a justement fait des clips pour Misanthrope, Betraying the Martyr, tout ça. Donc c'est quelqu'un qui avait déjà une approche du style metal, quoi. Et il a vraiment, comme pour Paolo Girardi, il a vraiment compris l'ambiance, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas eu de trop de complexité, quoi. On lui a expliqué ce qu'on voulait, il nous a expliqué lui ce qu'il pouvait faire. on est tombé d'accord. On est allé, on a filmé, donc on a fait le premier clip Retourne horaire, on l'a fait entièrement. Dès qu'il est sorti, on a attaqué le deuxième. On n'a pas voulu tout faire d'un coup, les deux tournages en même temps, pour pas qu'on veut, qu'il y ait trop de redondance et qu'il y ait un suivi cohérent. Les clips, on a essayé de mettre de la symbolique dans les clips, c'est-à-dire tous les lieux qui sont, tous les paysages qui sont filmés, les endroits où c'est fait, c'est que des endroits réels avec lourds en signification.
Ouais.
On a fait, par exemple, le début de Retourne horaire a été fait sur les calanques de Cassis.
D'accord.
Voilà, donc c'est la plus les plus hautes falaises d'Europe. Il y a beaucoup de gens se sont suicidés de cette falaise. Donc on s'est dit c'est magnifique, mais c'est aussi il y avait une drôle de rapproche avec la mort. On a fait on a tourné le deuxième clip dans une forêt en fait qui était une ancienne fontaine druidique où il s'est appliqué il y a des millénaires des sacrifices.
D'accord.
Tout ça, donc ça aussi c'est pareil, c'est une belle forêt, des beaux endroits, mais au final assombri par toujours cette aura de passé. Il y a eu des plans qui ont été faits au temple de Djan, des plans au lac de Salagou, enfin toujours des lieux historiques quand même. Et surtout historiquement païenne, quoi, je veux dire, dans le sens pas teinté par la religion, parce que nous c'est antérieur à tout ça, quoi.
D'accord. En tout cas, c'est à voir sur le net, hein, sur YouTube. Faut aller visionner ces deux très beaux clips. Alors l'album, tu l'as signalé tout à l'heure, hein, il est paru chez Jive Epic, Sony Music, donc une major. Qu'est-ce que ça a changé pour Acode, cette signature?
Ah ben, ce qui nous a changé, c'est surtout l'équipe qui nous a suivis. On n'aurait jamais pu avoir une équipe pareille. Je veux dire, dès qu'on est signé sur le major, il y a toujours cette histoire de... Il y a deux sons de cloche, il y a des gens qui disent « Ah, ça y est, vous avez vendu votre âme, vous allez nous faire de la pop. » Alors que nous, au final, la major, quand on a signé, le boss de Jive Epic nous a dit « Non, mais moi, je vous ai signé pour faire du death metal, vous restez intègre comme vous êtes. » Je veux dire, à partir de là, c'est les portes, c'est plus les mêmes. Je veux dire, des fois, on cherchait des... Rien qu'en promotion, je veux dire, on travaille avec Replica.
Ouais.
Je veux dire, il fait un travail d'orfèvre, quoi. Ce mec, il est là, il est depuis le début, Roger.
On peut saluer Roger, ouais.
Ah, voilà, c'est excellent. On travaille aussi avec on a fait la connaissance avec les éditions Hurlantes, qui vont nous éditer l'album. Avec Nicolas et Ramagé, il est excellent aussi, on s'entend très bien, c'est vraiment des gens, on a l'occasion de rencontrer ce genre de gens qui sont dans la musique, qui sont dans ces couloirs de la musique depuis des années, et en fait, ils restent dans l'ombre, mais ces gens-là, c'est grâce à eux que tout avance, en fait. Après, il y a toute l'équipe Sony, je veux dire, on a quand même une grosse équipe derrière qui s'occupe de nous, les graphismes, il y a des directeurs artistiques. Tous ces gens-là, ils permettent de faire bouger les choses. Je veux dire, James Bogren, peut-être que si on lui avait envoyé nous-mêmes un email, il n'aurait peut-être même pas lu l'email. Le fait que ce soit Sony, c'est vrai que ça aide.
Ouais.
Voilà. Faut être réaliste. Après, on bosse aussi avec Cap Productions maintenant. C'est une agence de booking qui s'occupe de nous, en fait, qui va nous booker, pour nous booker des dates.
D'accord.
Voilà.
Bah justement, j'allais y venir, puisque alors demain vous serez à Aix, ce sera pour la release partie de l'album, et je voulais savoir si côté concert il y avait déjà quelques dates de prévues ou si c'était en train de se mettre en place, quoi.
Alors c'est en train de se mettre en place. Là pour l'instant on a eu juste on nous a dit qu'on pouvait quand même officiellement dire qu'on allait jouer à une première partie de Decapitated sur la tournée en début d'année prochaine.
D'accord, pas mal.
Voilà, donc une tournée française. Et qu'on serait présent sur quelques festivals. Voilà, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant, et on attend de voir la suite, quoi.
Et ben, ce sera à suivre. En tout cas, on peut suivre toute votre actualité sur votre page Facebook. Vous avez aussi un site internet où on retrouve toutes les infos. Merci Jérôme de nous avoir accordé du temps. Ça a été un petit peu compliqué avec les coupures de téléphone, mais on y est arrivé.
Et oui, mais merci à vous aussi. Merci à Radio Back FM et à tous les auditeurs, en fait. De nous écouter, et puis j'espère qu'ils découvriront l'album et qu'ils passeront un bon voyage au niveau de la mort cérébrale.
Et ben justement, on va en réécouter un extrait de cet album The Divine Triumph, donc qui est paru le 24 août, et j'ai choisi Between Ice. Est-ce que ça te convient?
Ah ben impeccable, c'est impeccable.
Et ben c'est parti, merci Jérôme, salut, à bientôt.
À bientôt. Au revoir.
I'm
C'était Acode sur Back FM. Vous êtes toujours dans l'émission Check Me Load. Vous venez d'écouter le titre Between Worlds, qui est donc un extrait de The Divine Triumph, nouvel album du groupe paru fin août, paru chez Sony Music. Donc un album à découvrir absolument si vous êtes fan de death metal mélodique, si vous êtes fan aussi de la scène black des années 90-2000. Je pense qu'il y a moyen de se régaler. Moi j'ai adoré, et bien que l'interview ait été un peu compliquée, je continue à adorer cet album que je vous conseille. Et donc si vous venez de nous rejoindre, on avait il y a quelques minutes Jérôme, le bassiste du groupe, qui était avec nous, et voilà, on a eu quelques petits soucis de téléphone, mais c'est pas grave, on a réussi à aller jusqu'au bout. Korytny, du coup, je vais le ranger dans ma besace pour la semaine prochaine, puisque le temps qui nous était imparti est quasiment presque écoulé. Je suis déjà en train de dépasser là, et on va terminer avec la nouvelle rubrique, celle que j'ai annoncée tout à l'heure, puisque Check Me Load cette année fête ses 20 ans. Voilà, on vous l'a déjà dit plusieurs fois. C'est en effet à la rentrée 1998 que l'émission consacrée au métal a fait son apparition sur Bike FM. Et justement, je me suis posé une petite question, mais au juste, on écoutait quoi quand Check Me Load est né? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir dans cette nouvelle rubrique que j'ai appelée 20 ans dans tes dents, que vous allez retrouver un vendredi sur deux à la fin de l'émission. Ce sera en alternance avec la rubrique Sortez Cover, et ce sera durant toute cette saison des 20 ans de Check Me Load. Alors tout de suite, prenez place dans notre DeLorean volante imaginaire. On part direction le mois de septembre 1998. Et que se passait-il? Eh bien, on se remettait tout juste de l'énorme baffe que nous avait asséné Korn avec son Follow the Leader, qui avait déboulé en plein cœur de l'été dans nos baladeurs CD, puisqu'à l'époque, on faisait pas de petites playlists sur Deezer, Spotify ou Apple Music. On avait encore des baladeurs CD pour les mieux lotis, et même encore des baladeurs cassettes pour les plus pauvres d'entre nous. Ce mois de septembre 98, eh bien, il y avait aussi les Cradle of Filth qui continuaient d'entrer dans la légende avec l'incroyable Cruelty and the Beast qui était sorti en avril ou mai précédemment. Mais à ce moment-là, c'est sur Marilyn Manson que tous les projecteurs allaient se braquer en cette rentrée 98. Après le métal industriel sombre et crasseux d'Antichrist Superstar, eh bien, on découvrait un tout nouveau Marilyn Manson, tout en strass et en paillettes, avec l'album Mechanical Animal, qui est paru, eh bien, ça va faire 20 ans demain, puisqu'il est paru le 15 septembre. Et dans cet album-là, on va retrouver une grosse influence de David Bowie. Mais se focaliser sur l'album de Manson, ce serait un petit peu trop facile, puisque le disque, il a connu un succès gigantesque. Il y a bon nombre de titres qui sont devenus des classiques, donc que vous connaissez, que vous réécoutez peut-être encore régulièrement. Alors je vais plutôt vous proposer qu'on s'intéresse à un groupe qu'on a oublié, qu'on a perdu de vue, malgré le fait qu'à l'époque, il avait connu sa petite période de gloire. Et aujourd'hui, j'ai choisi de mettre à l'honneur un groupe américain qui s'appelle Spinechunk, qui a fait partie en 98 des espoirs de la scène New Metal, qui était alors en pleine expansion, ça commençait à prendre une grosse ampleur. Alors Spinechunk, c'est un groupe qui est né à Los Angeles en 96, c'est un groupe qui existe toujours et qui va attirer grâce à sa première démo l'attention d'un certain Dino Casares, le guitariste du groupe Fear Factory, groupe de métal industriel. Et ce fameux Dino Casares, il va leur offrir une première partie dans un célèbre club d'Hollywood qui s'appelle le Whiskey A Go-Go, vous en avez certainement entendu parler. Et suite à ce concert, eh bien Spinechunk va partager l'affiche avec plein de groupes phares de l'époque, avec Cold Chamber, Snot, Soulfly, Sepultura, Danzig. Ils vont donc attirer l'intérêt de pas mal de labels, et c'est finalement Roadrunner qui va signer le combo et publier son premier album intitulé Strictly Diesel, qui sort le 22 septembre, toujours en 1998 bien évidemment. Le disque, il se compose de 14 titres, il contient un morceau en featuring avec Burton Seabell, qui est le chanteur de Fear Factory, mais aussi une étonnante reprise de la chanson While My Guitar Gently Weeps des Beatles. L'album va être accueilli assez positivement par les médias, il va connaître un succès commercial plus qu'honorable, puisque par exemple aux États-Unis, il va s'en écouler 75 000 exemplaires, ce qui est pas mal pour un premier album. La suite, ça va être un peu moins glorieux, puisque depuis, Spinechunk a sorti 3 autres albums. Il y a eu, juste pour la petite histoire, The Hate of Callousness en 2000, il y a eu Self-Destructive Pattern en 2003... et puis Anger, Denial, Acceptance en 2012. Mais faut bien avouer que le groupe a jamais su transformer l'essai après le fameux Strictly Diesel. Ils n'ont pas connu la belle carrière que laissait présager ce premier album, donc bah voilà, tant pis, mais on va s'en souvenir avec plaisir aujourd'hui, et on va se quitter avec un extrait de ce fameux album, une chanson qui s'appelle 28. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures métal, et la semaine prochaine, on aura une 100% nouveauté, il n'y aura pas d'interview normalement, donc on va revenir sur les albums du moment, mais aussi sur quelques pépites qui sont parues cet été. Un très bon week-end à tous, salut, à bientôt sur Back FM, voici Spinechunk.